La séquence du médiateur, Bruno Denas.
Merci Sonia et bonjour à tous pour le rendez-vous donc du médiateur. Nous nous retrouvons chaque mois pour répondre à vos questions, mais aussi pour vous expliquer les fonctionnements de l'antenne de France Inter. Et aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement en période électorale, mais aussi de la vérité des faits. Alors avec nous, Jean-Marc Four, directeur de la rédaction, et Patrick Evenot, universitaire, spécialiste des médias et président de l'Observatoire de déontologie de l'information. Bonjour à vous deux.
Bonjour à tous.
Alors, mercredi prochain s'ouvre la campagne de la présidentielle. Alors, pas la campagne officielle qui débutera en avril, mais la campagne contrôlée par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec toutes ces contraintes imposées aux médias. Et cette année, deux nouvelles contraintes apparaissent. Jean-Marc Four, quelles sont-elles ?
Alors d'abord, il y a un biais de départ quand même. C'est-à-dire que quand on dit contraintes imposées aux médias, ce ne sont des contraintes qui sont imposées qu'aux médias audiovisuels et encore dans la version hertzienne.
Ouais, on y reviendra.
Ce qui crée un biais un péché originel, si je puis dire. Si vous voulez, c'est comme si vous êtes en finale du 400 mètres, il y a sept couloirs et puis il y a un seul des concurrents qui subit tous les contrôles antidopage et les autres, ils font ce qu'ils veulent. Et y compris, d'ailleurs, nous-mêmes, médias audiovisuels, dans nos version numérique. Donc on voit bien qu'il y a quand même un tout petit problème de, on va dire, d'égalité. La nouveauté principale, c'est que souhaite le CSA, c'est le décompte du temps d'antenne, c'est-à-dire pas uniquement le temps de parole accordé aux candidats, mais plus globalement le temps d'antenne qu'on leur consacre, y compris dans nos reportages et nos papiers.
Donc en fait, d'ailleurs, la nouveauté de cette comptabilisation du temps d'antenne, on peut le dire, ça passe quand même mal dans les rédactions parce que ça va faire perdre beaucoup de temps, d'abord en calcul, en contrôle permanent des équilibres, en plus d'ailleurs des temps de parole, mais aussi ça va assurer une espèce de surveillance tatillonne des journalistes, des éditorialistes, des spécialistes politiques.
Ça soulève un problème déontologique et éthique réel qui nous pose un souci. Voilà, c'est-à-dire que ça peut ouvrir la porte s'il y a un début d'instrumentalisation à une stigmatisation potentiellement dangereuse de certains journalistes, pourquoi pas, de certains individus, alors même que la politique éditoriale d'un média ne doit être regardée qu'à l'aune de son paysage global. C'est bon, on ne peut pas faire autrement.
Alors justement, Patrick Evenot, vous qui êtes le président de l'ODI, l'Observatoire de déontologie de l'information, ça pose un problème vraiment ?
Ça pose un très gros problème parce qu'il va y avoir des listes de journalistes qui auront parler de M. Fillon, de Mme Le Pen ou de etc. Et donc on va faire des amalgames, des rapprochements. Pas parce qu'un journaliste suit Mme Le Pen qu'il est forcément lepéniste, pas parce qu'un journaliste suit
l'UMP.
Bon, il fait son travail. Donc, mais il va y avoir des amalgames.
Sauf que souvent on fait des assimilations.
On va les assimiler à des ennemis ou des amis, enfin, etc. Ça va être un véritable problème. Le temps d'antenne, c'est une comptabilité qui est monstrueuse. Alors ça vient depuis bien longtemps, hein, c'est ça le problème, c'est que c'est une sédimentation de toute une série de lois, de décisions, etc., qui depuis 1965, la première élection présidentielle au suffrage universel, a fait qu'on aboutit à un système complètement incohérent.
Alors justement, d'ailleurs, Jean-Marc le disait, il faut préciser que ces contraintes ne touchent que l'audiovisuel public, mais privé aussi, puisque RTL, Europe 1, TF1 sont soumis aux mêmes règles, mais pas la presse écrite, pas la presse numérique. Nous sommes quand même dans l'ère du média global.
Mais bien sûr, on est dans l'ère du média global. Tout le monde fait de la télé, de la radio, de l'internet et du papier. France Culture a un magazine papier. Vous avez un site internet, etc. Et le monde fait de la télé, le Figaro aussi. Enfin bref.
Donc. Et là, pas de contrainte.
Et là, il n'y a pas de contrainte parce que la presse.
C'est anachronique, si vous voulez.
La presse est protégée par la loi de 1881. L'internet est sous le cadre de la presse. Et alors, c'est simplement parce que en fait, le point principal, c'est que les gens, les politiques, dans les années 60-70, croyaient que c'était l'exposition, le fait qu'on voyait les gens à la télé, qu'on allait voter pour eux. C'est prendre les électeurs pour des imbéciles. C'est pas parce qu'on voit quelqu'un à la télé, plus qu'un autre, qu'on va voter plus pour lui. C'est prendre les électeurs pour des imbéciles. Le seul problème, c'est que ça instrumentalise tout l'ensemble du système et que le CSA, qui est au service de la loi, mais qui est donc en train de régenter complètement la vie politique française. Parce que il y a en plus des dérives qui vont avec. C'est-à-dire que puisque c'est l'exposition médiatique qui compte, on a intérêt à se prétendre candidat ou pour pouvoir passer à la télé. ou à la radio.
Alors justement, d'ailleurs, Jean-Marc, j'ai reçu des protestations d'ailleurs d'auditeurs, et notamment par exemple Jean-Luc qui s'était insurgé contre le fait qu'un candidat totalement inconnu d'ailleurs hein, ait tenté de prendre la parole un matin lors de l'émission de Patrick Cohen, l'émission avec Vincent Payon, que Patrick Cohen avait coupé cet auditeur qui téléphonait. Simplement, les auditeurs me disent vous ne respectez pas la démocratie.
Alors trois éléments de réponse. Premier élément de réponse, ça prouve d'abord qu'on est très transparent dans notre fonctionnement. C'est-à-dire que quand on dit les gens appellent le standard, ils arrivent jusqu'à l'antenne, là, c'est la preuve absolue là qu'on agit en toute transparence. C'est-à-dire que c'est pas nous qui appelons les gens, c'est bien les gens qui nous appellent. Précision d'importance quand même. Deuxième élément, c'est il me semble que l'irrespect est davantage dans l'autre sens, puisque quelqu'un qui avance masqué, c'est-à-dire qui essaie de passer les filtres en posant une question qui a rien à voir avec, qui a à voir avec le schmilblick, et qui, quand une fois qu'il est à l'antenne, pose une toute autre question, c'est là où est l'irrespect. Et troisième élément de réponse, et ça renvoie à ce que disait Patrick Guévenoux à l'instant, il y a quand même un certain nombre de candidats, pardonnez-moi de le dire, mais qui sont totalement fantaisistes. Enfin, on parlait de X-Files à l'instant avec Sonia Delevillers. J'ai souvenir quand même dans un passé récent de quelqu'un qui était obsédé par la création d'un corridor thermonucléaire entre la Terre et Mars. Oui, mais si vous voulez, c'est à ça que ça conduit quand même. L'exposition totalement égalitariste. On a quand même une responsabilité en tant que média à identifier les choses qui sont totalement fantaisistes. Enfin, c'est quand même élémentaire dans notre travail.
Alors, rapidement, Jean-Marc, il y a aussi des auditeurs là qui reprochent assez souvent aux journalistes, aux antennes, de se consacrer plus à des commentaires et pas assez, finalement, à des idées, des solutions proposées par les candidats. Moins de polémiques, par exemple, demande Aurélie, moins de commentaires qui répondent à d'autres commentaires eux-mêmes déjà commentés. Quoi vos projets à France Inter pour la présidentielle?
La remarque d'Aurélie et de nombreux auditeurs là-dessus est intéressante, effectivement. Il y a un sujet autour de ça. J'espère qu'on va satisfaire les auditeurs à France Inter pendant cette campagne. On retient deux axes majeurs. Premièrement, expliquer les programmes de façon détaillée et pédagogique. On va beaucoup consacrer de temps d'antenne à cela. Et d'autre part, arpenter le terrain de la France pour expliquer dans quel état est la société française.
Alors un autre sujet très débattu en ce moment, qui me vaut d'ailleurs pas mal de messages, c'est la vérité des faits. Alors on va partir aux États-Unis au lendemain de l'investiture de Donald Trump. Frédéric Carbone, envoyé spécial permanent à Washington.
Ce qui irrite le plus le président américain, c'est que les médias insistent sur la modestie de la foule venue assister à son investiture.
I made a speech.
J'ai fait un discours, je regardais l'esplanade, c'est comme s'il y avait 1,5 million de personnes. Et je regardais la télévision, et là c'était presque vide. Les photos montrent en tout cas à l'évidence qu'il y avait nettement moins de monde qu'en 2009 pour l'investiture de Barack Obama, le porte-parole de Donald Trump, convoque pourtant les journalistes pour leur faire la leçon, c'est qu'on touche au sacré chez le président américain en relativisant l'ampleur du mouvement qui le porte, d'où le tweet de ce matin sur l'audience télé record pour cette investiture, la voilà l'explication, ils n'ont pas pu venir, mais ils étaient devant leur poste.
Bon, à la suite de ce papier de Frédéric Carbone et d'autres interventions de nos reporters, d'ailleurs, plusieurs auditeurs ont protesté. Vous en prenez systématiquement à Donald Trump, élu du peuple américain, contestant tout ce qu'il affirme. Or, objectivement, on a bien vu les photos, et il y avait quand même beaucoup moins de monde pour Barack Obama. Alors, Patrick Guévenoux, d'où vient le fait que, finalement, on met en doute ce que disent les journalistes de plus en plus, et on croit plus, finalement, les chefs, les gens qui disent un peu n'importe quoi, d'ailleurs?
Alors, c'est un phénomène qui est tout à fait ancien, parce que depuis de multiples années, on assiste à une individualisation de la consommation d'informations. Hein. C'est vraiment... Et donc, on est dans des... C'est renforcé par les réseaux sociaux, par l'espèce de bulle qu'on se crée autour de soi pour avoir accès. Mais ça fait déjà un certain temps que l'individualisation, face à une offre pléthorique, énorme de chaînes de télé, de stations de radio, de presse, d'internet, etc. On est forcé de picorer plus ou moins et donc de se constituer un corpus et d'avoir sa propre sphère d'information.
Oui, mais on préfère finalement le faux au vrai, alors.
Eh ben, on préfère ce qui nous convient. C'est toujours beaucoup plus facile de se faire plaisir que de penser contre soi-même, d'être un peu masochiste en regardant l'ennemi ou l'adversaire. Et donc, c'est ça le problème.
Jean-Marc Faure, il n'y a pas encore trop de dérivants.
Bien, ça vient.
Avec les extrêmes, notamment.
Ça vient. Il faut être vigilant là-dessus. Alors, cela étant, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Patrick Guévenoux. Veille histoire, quand même. Enfin, en plus, la méthode de la propagande, particulièrement par les pouvoirs autoritaires, enfin, je veux dire, c'est vieux comme le monde. Bon, d'un autre côté, si on prend le sujet à rebours, je trouve que ça soulève une question intéressante. C'est-à-dire que ça nous contraint, nous journalistes, à nous poser la question de savoir jusqu'à quel point on détient la vérité. La vérité, c'est compliqué. Hein. Essayons de faire notre travail avec honnêteté, c'est déjà essentiel. Mais prétendre à la vérité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut aussi que nous, on s'interroge là-dessus.
Merci à vous Jean-Marc Four, directeur de la rédaction, et Patrick Evenot, spécialiste des médias, président de l'Observatoire de déontologie et de l'information. Prochain rendez-vous du médiateur vendredi 24 février. D'ici là, vous pouvez continuer à réagir sur notre site médiateur.radiofrance.fr ainsi que sur Facebook et Twitter.